Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Alors, on va prier. Père éternel, on a affaire à te parler, Seigneur Dieu, puis tu n'es pas en dehors du temps, tu es dans le temps, Seigneur. Tu as choisi d'interagir avec nous, d'avoir une communion avec nous. Tu nous donnes plusieurs images dans la Bible dont je frappe à la porte de votre cœur, si vous entendez sa voix. Si vous entendez ma voix et que vous m'ouvrez, bien, je vais manger avec vous. Tu as dit que tu nous donnerais ton esprit qui serait toujours avec nous aussi. Dans Éphésiens, ça dit qu'on a accès au Père par le Saint-Esprit grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas en théorie, Seigneur, qu'on s'approche de toi, mais on croit que tu existes. Puis, Seigneur Dieu, on croit que ce matin, ce n'est pas une assemblée seulement parce que je parle en avant puis il y a des gens qui sont assis puis qui écoutent, mais parce que ta parole éternelle, elle nous est illuminée dans notre esprit. Aide-nous à comprendre ton cœur de Père. Amen. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, faire apparaître déjà la première acétate. En passant, juste si vous cherchez les restes de ma série sur le chrétien en mission, j'ai décidé d'attendre un petit peu pour cette partie-là. Parce que là, on était rendu, il y avait trois mouvements dans un chrétien qui est en mission. Le premier, c'est que lui, il doit sortir de sa vie personnelle puis d'appartenir à la communauté, de s'investir dans un ministère. L'autre mouvement, c'était de sortir vers le monde puis d'annoncer la bonne nouvelle. Et là, on avait comme devoir, ceux qui voulaient, de faire notre témoignage, raconter notre histoire à peu près en 2 minutes. Il y a une personne qui l'a fait puis elle me l'a donné et je m'engage envers cette personne-là à poursuivre, à perfectionner son témoignage, puis à l'aider à raconter son histoire. Puis aussi, si vous voulez le faire, ça va toujours être disponible pour vous. Puis je vais vous le corriger, je vais vous aider à vous perfectionner dans ce domaine-là. Puis je vais aussi vous aider à progresser dans, bien, Astor, vas-y, racontez ton histoire. Vas-y, là, saute, là, prends un rendez-vous. Je l'ai fait cette semaine avec un professionnel que j'ai pris un rendez-vous simplement avec cette personne-là. J'allais m'asseoir, j'ai réglé les affaires professionnelles que j'avais à régler avec, puis après j'ai dit, j'aimerais vous annoncer l'Évangile. La personne s'est assise dans son siège avec un sourire, puis elle m'a donné 15 minutes. Mais c'est parce que j'étais prêt à raconter mon histoire, puis j'avais appris une manière de raconter l'Évangile de façon simple. Il faut oser. Mais comment on va oser si notre témoignage n'est pas prêt, si on ne sait pas tout à fait ce qu'on va dire pour amener les gens au Seigneur? Donc, je m'engage envers cette personne-là à continuer à la perfectionner, puis à une fois qu'elle va raconter son histoire, tout le reste de la série, ça va servir à aider une personne à dire oui. Parce qu'au début, il faut dire oui pour la vie éternelle. C'est pas trop dur, c'est un cadeau. Deuxièmement, Jésus veut qu'on lui obéisse puis qu'on le suive. Ce que ça veut dire, ça. Donc, apprendre à obéir à Jésus-Christ, le baptême et tout ça. Aider une personne à devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Mais je me suis dit, puisqu'il n'y avait pas de témoignage, peut-être votre témoignage est super parfait, vous êtes correct, vous n'avez pas besoin nécessairement que je vous amène à cette étape-là. Mais je pense qu'il y en a plusieurs que leur témoignage n'est pas prêt. Puis qui ne sont pas rendus à cette étape-là. Fait que je brûlerais des étapes de vous dire aider maintenant les gens à devenir des disciples de Jésus-Christ. Je brûlerais des étapes. Donc, mon idée ici, à matin, ce n'est pas de faire sentir personne coupable, puisque je vous avais dit que faire votre témoignage, ce n'était pas un devoir. Par contre, une des choses de devenir un disciple, c'est d'amener la personne à obéir puis à faire les prochaines étapes. Et ça ne se passe pas en salle. Devenir une personne qui obéit, ça ne se passe pas quand je viens écouter la parole. Ça commence à partir du moment où j'ai compris quelque chose que Dieu s'attendait de moi et j'ai commencé à le faire. Ça, c'est l'obéissance. Et donc, puisqu'on doit se multiplier dans la même image qu'on est, ça ne servirait à rien que je nous entraîne à amener les gens, parce qu'on va les aider à faire leur témoignage, ces gens-là. On va les aider à se préparer pour leur baptême, puis on va les aider à donner leur témoignage quand ils vont se faire baptiser, puis que toute leur famille va être là, puis ils vont entendre. Alors, si moi, je n'ai pas fait mon témoignage, comment je peux aller montrer à quelqu'un faire son témoignage? Donc, la série est arrêtée, mais elle va poursuivre individuellement avec les gens qui aimeraient aller plus loin dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas une condamnation, c'est juste on est rendu là en tant qu'Église. Puis mon but, c'était de vous sensibiliser aussi à ce que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on aille dans le monde et qu'on fasse des disciples. Aujourd'hui, je veux vous parler du Père. Du Père qui risque tout pour le tout. Je ne sais pas si ça va être une série, on va voir, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Je veux parler aujourd'hui de la création. Quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde que ça y tentait de créer. C'est un monde qu'il a créé par grâce et il n'était pas obligé de le créer. Dieu n'avait pas besoin de créature, puis il n'avait pas besoin d'être adoré. Le Père était pleinement aimé par le Fils, le Saint-Esprit servait le Père et le Fils, et il y avait cette complicité, cette communion, cette relation-là qui dure depuis toute l'éternité. On ne sait pas ce qui se passait, on ne sait pas ce qui se disait, on n'était pas là. Mais nous, on connaît ce qui nous a été révélé. Mais une chose qu'on sait, par exemple, c'est que Dieu n'a pas besoin d'une création pour être aimé, et que c'est par grâce qu'a créé les cieux, les étoiles, les systèmes solaires, puis qu'il nous a créés, nous, petits pucerons, dans l'univers. Et il le fait par grâce et pas par nécessité. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu, vous dites, pourquoi tu parles de risque? Dieu connaît tout, Dieu peut tout. Aujourd'hui, je vais vous demander d'ouvrir votre esprit, parce que dans le christianisme traditionnel, souvent, Dieu est perçu comme cet être inflexible, que tout est décidé d'avance, tout est connu d'avance, puis il n'y a rien qui va surprendre Dieu, Dieu peut tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer, à l'aide de la parole, que Dieu ne peut pas tout. C'est Jean-Sébastien. Quelqu'un dit que vous mettez les dehors. Dieu ne peut pas tout. Dieu n'est pas capable de tout. Pourquoi? Puis vous dites, crime dans la théologie, il appelle ça omnipotent. Oui, Dieu peut tout dans les limites de quelque chose. D'ailleurs, déjà la parole nous dit, Dieu, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il prend des risques, parce qu'il ne peut pas tout faire. Mais ici, le verset nous dit, hey, regarde Jean-Sébastien, notre Dieu est au ciel puis il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Et Dieu, dans le fond, ne trouve aucun rival ni égal qui puisse s'opposer à sa volonté. Autrement dit, il est le big boss. Il est celui que personne ne peut l'empêcher de faire s'il veut faire quelque chose. C'est vrai. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai dans le sens absolu, c'est-à-dire que Dieu peut tout faire? Je vais vous poser des questions. Dieu peut-il pécher? C'est contre sa nature. Il ne peut même pas violer sa propre nature. Et puisque Dieu est pur, il ne peut pas pécher. Est-ce que Dieu est capable de créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas la lever? Quelqu'un? Risquez-vous. Qui pense que Dieu est capable de créer une pierre, une roche si lourde qu'il ne soit pas capable de la lever? Levez la main. Comment il va faire ça? Toi, tu travailles avec des bulldozers qui enlèvent de la pierre puis de la terre. Comment Dieu peut créer une pierre qu'il ne soit pas capable, donc incapable, de la lever? Comment il fait ça? Mais s'il n'est pas capable de créer une pierre qu'il ne puisse pas lever, puisqu'il ne serait pas capable de la lever, il ne deviendrait pas capable. Exactement, c'est impossible. Y a-t-il quelqu'un qui pense que c'est possible? Donc, Dieu ne peut pas aller contre sa propre nature. S'il est pur, il ne peut pas pécher. Il ne peut pas non plus aller contre ses choix. Et c'est là qu'on va regarder ensemble comment Dieu a créé l'univers, comment il a créé le monde, puis on va voir qu'il y a des choses que Dieu ne se permet pas. Puisque Dieu ne peut pas mentir ou il ne peut pas se contredire lui-même, sinon il deviendrait soit hypocrite, soit menteur. Et donc, Dieu s'exerce dans la souveraineté. Et les gens disent, mais non, j'avais un livre, ça s'appelait « Le Dieu qui prend des risques », je veux dire, je me suis rentré dedans. Parce que c'est confortable de dire que Dieu contrôle tout. Savez-vous quoi? On n'est pas obligé de prendre responsabilité sur les choses qui vont mal dans la vie. ça a mal tourné, si l'omelette a mal tourné, on peut dire, ben, regarde, tu sais, les voies de Dieu sont insondables. Hein? Dieu contrôle tout. Ben oui, les viols, les infanticides, Dieu contrôle tout. Voyons donc, Dieu contrôle-tu vraiment tout? Est-ce que c'est ça que nos sens nous permettent de voir? Ah, j'ai demandé et je ne l'ai pas eu, Dieu contrôle tout. Pas nécessairement. Et c'est ça que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est que la définition de la souveraineté est définie par des gens comme étant, souveraineté veut dire, c'est ça, la souveraineté. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est la définition de la souveraineté. Et les gens disent, Dieu est souverain puisqu'il n'y a rien et aucun détail qui échappe à son contrôle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que rien n'échappe à son contrôle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, dès que Dieu choisit de créer, il accepte une limitation. Quand Dieu a décidé de créer l'homme avec un corps, il a aussi décidé de ne pas le créer sans corps. Jean-Sébastien, c'est évident. Le même homme ne peut pas être créé à la fois avec un corps puis l'homme sans un corps. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu décide de faire quelque chose, il dit non à son contraire. Et en faisant ça, Dieu, et à partir du moment où il le fait, il a pris des décisions et s'est limité lui-même à un homme, ça va avoir un corps. C'est des exemples faciles. Donc, Dieu est souverain ou capable de faire ce qu'il veut dans les limites des décisions qu'il a prises. Et Dieu, on va voir quel genre de décision qu'il a prise, celle qu'on peut connaître, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas. Il y a aussi une autre limitation. Dès qu'il a commencé à créer le monde, il a aussi créé le temps. Donc, avant de parler d'espace, laissez-moi vous parler de temps. Dieu qui est intemporel, Dieu qui est éternel, n'agit plus présentement dans l'éternité. C'est-à-dire qu'avant que le temps existe, il est au présent. Il est l'éternel. Mais il ne peut pas être à la fois « il est » puis en même temps « il a été ». Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand il a créé le temps, il a embarqué dedans. Et c'est la seule manière que Dieu puisse répondre à vos prières en 2017 puis que ce soit ici et maintenant. Il ne peut pas être en dehors du temps et dans le temps en même temps. Ce sont des contradictions. Donc, Dieu qui est intemporel, Dieu qui est éternel, crée le temps, embarque dans le temps, puis maintenant, il interagit avec chacun d'entre nous. On voudrait nous faire croire souvent que Dieu connaît tout d'avance, puis que quasiment nos prières ont été quasiment décidées d'avance. Tout est comme tout fait d'avance, tout est connu d'avance. Ce n'est pas le Dieu que je lis dans la Bible. Moi, ce que je vois dans la Bible, c'est un Dieu qui, David, il construit le temple, puis il crée l'espace, puis il rentre dans l'espace aussi. Pourquoi? David, il dit, il faut que je fasse un tabernacle. Dans un roi, je pense au chapitre 15, il dit, « Ouais, mais les cieux des cieux ne peuvent te contenir et tu habiterais dans une maison faite de mains d'hommes. » Même Moïse, quand il voyait la présence de l'Éternel, il ne voyait pas l'Éternel, il voyait la présence de l'Éternel quand il rentrait dans le tabernacle. C'est ça qui est écrit. C'était une représentation de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans 15 par 15. Il ne peut pas rentrer là. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors, il a fallu une incarnation du Dieu illimité qui rentre dans l'espace et dans le temps pour interagir avec nous autres. Fait que quand on voit une partie de lui, ben on voit un Dieu qui s'est limité. Comme Jésus, qui, quand il est venu sur la terre, c'est Dieu fait homme, il s'est privé de certaines prérogatives, comme connaître tout, faire des miracles par sa propre puissance. Il n'a pas fait ça, il a fait toujours les miracles par la puissance du Saint-Esprit. De la même manière, Dieu, qui est en dehors du temps et de l'espace, rentre puis se rend visible dans notre temps, dans le tabernacle, par exemple, quand Moïse il le rencontrait. Alors Dieu, d'une certaine manière, en créant, accepte une limitation. Et c'est pour ça qu'on a affaire à Dieu maintenant et ici, dans notre lieu présentement. Il est là. Il entre dans le temps, il sort de l'intemporel. Et quand on prie, il interagit Pourquoi? Parce qu'il est dans le temps, puis il est sorti de l'intemporel. Le passage, si vous voulez le lire, c'est dans 1 Roi 8, verset 27. On voit que Dieu devient un acteur de l'histoire, puis David dit, les cieux ne peuvent pas te contenir, comment tu pourrais habiter dans une maison faite de main d'homme? Alors, si la souveraineté, ce n'est pas que Dieu fait tout, puis contrôle tout, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est alors la souveraineté? Et on va regarder ça ensemble. Être souverain, il y a deux points importants. Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Il est donc avant tout ce qui existe, même les êtres invisibles, les principautés, les anges et tout ça. Et il est vainqueur du chaos. Dès le chapitre 1 de Genèse, on s'aperçoit que le premier verset, c'est « Dieu créa les cieux et la terre ». Et le mot, c'est « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », c'est « bara ex nihilo ». Et ça veut dire « à partir de rien ». Dieu créa les cieux et la terre à partir de rien. Au commencement. Et donc, il est l'auteur de tout ce qui existe, puis il est vainqueur du chaos. Qu'est-ce que ça implique? Premièrement, il est créateur de tout ce qui existe. Dans Romains, au chapitre 4, verset 17, c'est écrit, en parlant d'Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, Abraham. » Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Il est l'auteur de tout ce qui existe. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Donc, Romains 4, verset 17. Hébreux 11, verset 3. Tout ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il est l'auteur. Et dès les premiers passages, bien d'abord, vous voyez juste homme-femme. L'homme et la femme, l'homme et la femme, l'homme et la femme. Le serpent dit à la femme. La femme en parla à l'homme. Il n'avait pas besoin ben de se nommer à partir de là, parce que dans le fond, il n'y avait pas de distinction. Puis c'était assez facile. Il pouvait dire « homme ». Elle n'a pas dit. Lui, il pouvait dire « femme ». C'était correct. Mais à partir du moment où il y a d'autres individus qui sont rentrés en jeu, bien là, il y a des noms qui ont été donnés. Puis Adam, Dieu lui donne le nom d'Adam. L'homme, Dieu lui donne le nom d'Adam. Et Dieu, en nommant l'homme, il est en train de répondre à la création. Il est en train de répondre à ses créations. Donc, il n'est pas juste avant tout ça, il est dedans, ça. Et là, il va nommer et ça va démontrer sa souveraineté sur l'homme aussi, parce qu'il répond à ce que l'homme est. Le deuxième point, c'est que quand on dit que Dieu est souverain puis qu'il est au ciel, il fait ce qu'il veut, il est là de droit. Il est là de droit parce qu'il est l'auteur de tout ce qui existe. Puis deux, à cause qu'il est participant dans l'histoire des hommes, il est le vainqueur du chaos. Déjà au verset 2 et 3, on voit la terre était informe et vide. Et le mot, c'est tohu-bohu, c'est-à-dire en désordre. Ça veut dire deux choses. Soit elle est devenue en désordre, soit elle n'était pas encore formée, comme quand tu es en train de faire un vase avec de l'argile, puis ça a l'air de n'importe quoi jusqu'à temps que ça fasse quelque chose. Il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. Par contre, je propose que c'est la chute des anges qui a amené cette destruction-là, puisque dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14, on voit qu'il y avait un paradis. Il y avait des anges dans ce paradis-là. Satan était un chérubin dans ce paradis-là. Il y avait plein de pierres précieuses dans ce jardin-là. Puis, à un moment donné, il s'est passé une révolte qu'on lit dans les prophètes, mais qu'on ne trouve pas dans le livre de Genèse. On ne sait pas quel jour qui ont été créés les anges. C'est-tu quand Dieu a créé les étoiles? On ne sait pas. Il n'y a aucune place qu'il y ait des pierres précieuses non plus qui sont créées dans le jardin d'Éden. Alors, ça nous laisse croire qu'il y a eu une pré-création ou une création que nous, on ne sait pas, là, entre ce qu'on voit présentement et ce qu'il y a au commencement. Mais il y a eu un bordel sur la terre. La planète appartenait au grand prêtre Satan, qui avant s'appelait Lucifer, avant sa chute. Et il savait aussi que cette planète était pour le Fils de Dieu, puis pour qu'on puisse adorer le Fils de Dieu. Et la jalousie lui a pris que cette terre-là ne lui servirait pas à lui. Que la terre lui avait été remise, mais pour qu'il fasse quelque chose avec ça, c'était de conduire les hommes au Fils de Dieu. Il n'aimait pas ça, puis il a fait 5 « je » dans Ésaïe 14. « Je vais m'asseoir au septentrion. Je vais établir mon trône sur le trône de Dieu. » Et donc, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Par contre, il y en a qui disent, « Non, non, c'est juste que la terre est informe, puis c'est comme quand tu fais de la construction. Au début, ça a l'air un peu, puis là, à un moment donné, ça prend forme, ou un artiste qui fait quelque chose. » Mais peu importe que ce soit créé à partir de rien, puis qu'il arrive à un désordre, que ça devient en ordre, ou encore qu'il y a eu une révolte, puis qu'il y a eu le bordel, ce qu'on voit, peut-être mes frères en France vont penser que bordel, c'est d'autres choses, mais ici, au Québec, ça veut juste dire le désordre. OK? Donc, deux choses que ça veut dire, qu'il est souverain, ça veut dire qu'il est avant toute chose et de droit, il est le créateur, il a le droit d'être le roi et de faire ce qu'il veut sur cette création-là. Deux, il est vainqueur du chaos. C'est que déjà dans les trois premiers chapitres, on voit vraiment qu'il y a un ennemi qui est là et qui vient essayer de mettre le trouble dans les relations. Et Dieu se montre comme vainqueur sur le chaos. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que chaque croyant dans la Bible voit qu'il y a aussi une promesse où le mal va vraiment être éradiqué du monde. Il va y avoir un paradis qui va être retrouvé. Puis, on voit le péché, la souffrance associée au péché va aussi être enlevée parce que Dieu est vainqueur, parce qu'il est souverain sur le mal. Donc, si on voit la définition de Dieu comme étant l'auteur de tout ce qui existe, étant avant toute chose qui existe, puis le vainqueur du chaos, ça change en crime de la définition que Dieu contrôle tout ce qui arrive de mal dans ma vie, que Dieu contrôle tout ce qui se passe dans le monde. Ça vient faire de lui un joueur important sur lequel on veut, pas juste un joueur, le maître du jeu, sur lequel on veut se confier parce qu'il est vainqueur et il peut nous aider à être vainqueur du mal qu'il y a dans le monde aussi. Alors, on va essayer de voir ensemble les règles de la création. Puis on va regarder pourquoi Dieu, en créant le monde, il a pris un grand risque. Puis plus tard, si je fais une série avec ça, on va voir aussi comment, quand il vous a choisi, il a pris un risque. Chacun d'entre nous, Dieu a pris un risque qu'on ne l'aime pas. Il a pris le risque qu'on veuille créer une distance entre lui et nous. Il a pris un risque qu'on veuille suivre nos propres voies, même si on a été racheté, puis qu'on puisse vivre sans le glorifier. Il a pris la chance qu'on continue dans nos péchés. Il a pris la chance qu'on n'aime pas notre prochain. Il a pris la chance qu'on ne prenne pas notre rôle de père pour enseigner nos enfants. Il a pris les risques qu'on soit des gens qui cherchent son intérêt avant celui d'autrui. Dieu prend plein de risques. On va voir ça plus dans le Nouveau Testament. Mais là, on est comme à la création. Dieu prend un risque. Quel risque donc prend-il, Jean-Sébastien? Mais premièrement, on va regarder les règles de la création qui ont été établies. Bon, premier point qui est important, et c'est pour ça qu'on appelle ce message un père qui risque le tout pour le tout. Premièrement, on ne peut pas cerner ce qui s'est passé avant la création de ce qui est visible. On ne sait pas. On n'était pas là avec la Trinité, on n'était pas le quatrième membre de la Trinité. On ne sait pas totalement toutes les motivations qui ont fait que Dieu a créé le monde. On sait par contre que Dieu se suffit à lui-même et qu'il n'y a pas besoin de cette création-là. On le lit dans les Écritures. Alors, quelles étaient ses intentions? C'était quoi ses choix? Est-ce qu'on connaît le début jusqu'à la fin? Non, on le voit se développer autour de nous. Mais on a l'Apocalypse, on voit des choses. Dieu nous a cerné quelques affaires. Il nous donne l'espoir d'un monde nouveau. Il nous montre l'espoir qui va vaincre le chaos. Mais comment il va le faire, on ne sait pas tout à fait comment. On ne sait pas tout ce qu'il y avait dans sa tête. Et donc, c'est dangereux de dire « Dieu savait tout dès le départ. Dieu a organisé tout dès le départ. » Il faut aller dans les Écritures, voir qu'est-ce que Dieu dit, peut-être de lui, avant qu'il ait créé le monde. Mais on ne peut pas présupposer que Dieu... Il y a des décisions qu'il a prises, puis on se met dans sa tête, puis on dit, ouais, Dieu, quand il a décidé de créer le monde, il a pensé ci, il a pensé ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On est limité à ce qu'on voit dans les Écritures, de ce que Dieu nous a révélé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures? Qu'il est la source de tout ce qui existe et qu'il n'y a aucune créature ici ou dans les cieux qui coexiste avec lui de façon éternelle, à part le Père, le Fils et le Saint-Esprit, forme la Trinité, mais personne qui est avec lui un rival ou un égal, qu'il est le maître du jeu, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, et qu'il n'y a, même s'il y a des rivales, il n'y a pas des égales. Donc, égales et rivales, il n'y en a pas. Deuxièmement, donc ça ici, c'est important, ça nous garde humble, ça nous fait, il y a bien des choses qu'on va dire, je ne sais pas, mais je sais. Puis quand on va dire, mais je sais, c'est parce qu'on l'a lu dans l'Écriture. La doctrine de la création dessine une distinction forte entre Dieu et ses créatures et met une emphase sur une relation particulière entre les deux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un roi, oui. On voit le maître du jeu, oui. On voit un écart important entre Dieu. Dieu n'a pas créé des comme lui, mais il a créé des images de lui. Dieu a décidé, à un moment donné, d'arrêter la ressemblance à un certain niveau. Tu sais, il nous a donné certaines ressemblances à lui, mais on reste une créature, puis lui, il reste le créateur. Il reste l'adoré, nous demeurons l'adorateur. Et pour l'éternité, on n'arrivera jamais à un endroit comme ça. Il y a un écart incroyable entre lui et nous, et même quand on va être glorifié, il va avoir encore cet écart-là qui fait qu'il est saint. Et nous lui devons consécration. Nous lui devons honneur, hommage et louange, parce qu'il le mérite. Et donc, ces créatures, il y a une distinction très forte entre Dieu et ses créatures, et il met un emphase sur une relation, et là, je vais le mettre ici, moi aussi, l'emphase sur une relation particulière entre les deux. Déjà, dans les premières pages de Genèse, si vous le lisez, lisez Genèse 1 à 4 cette semaine pour vous remettre dedans, ça va vraiment vous instruire. Mais il n'est pas juste un roi, il est un roi qui désire une relation avec ses sujets. OK? Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, ce qu'il va faire, il est un roi, mais il dit, moi, je veux une relation individuelle avec chacun de mes sujets. Mais elle n'est pas obligatoire. Dieu donne la domination à l'homme de choisir s'il veut ou non de cette relation-là. Quand je dis domination, c'est qu'il donne le pouvoir de choisir s'il la veut ou non, cette relation-là. Et c'est là que le père prend des risques. Beaucoup de parents veulent des relations avec leurs enfants, mais leurs enfants peuvent être trop occupés, trop distraits, ou ne pas vouloir même cette relation-là avec leurs parents. Et ils prennent un risque. En ouvrant leur cœur, en désirant cette relation-là, Dieu est ce père qui prend un risque. Déjà, dans la première règle qu'on voit, ou la deuxième, les conditions divinement établies qu'on voit dans l'Écriture, c'est que Dieu met un emphase sur une relation particulière entre les deux. Et cette relation qui est particulière, c'est que Dieu dit, « Sais-tu quoi? J'ai une relation avec toi, mais tu pourrais, si tu voudrais, ne pas l'avoir. » C'est risqué. Dieu, pourquoi tu n'as pas mis une clôture assez haute pour pas qu'on aille manger de cet arbre qui nous faisait choisir autre chose que toi? Parce que l'amour n'a de l'importance, de valeur qu'en présence d'un choix. Si ma femme serait la seule au monde et je lui dirais « Je t'aime plus que toutes les autres », qu'est-ce que ça vaudrait? Qu'est-ce que ça vaudrait? Ça ne vaudrait rien. Elle dit « C'est facile de dire ça. » Mais Dieu, si je dis « Je t'aime, Seigneur, plus que tous les autres dieux », Dieu dirait « De quoi tu me parles? » Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé un monde où ce serait possible de ne pas l'aimer si on voudrait. Et c'est là que le péché entre dans le monde. Mais ça, on en parle plus tard. Dieu pourvoit que cette relation-là soit possible avec lui, et ça va être jusqu'à la fin. Malgré le mal qui est rentré dans le monde, puis même si cette relation-là est brisée, Dieu est encore celui qui cherche toujours à avoir cette relation-là avec chacun des hommes sur la terre. Et donc, Dieu va pourvoir à ce qu'elle soit possible, et c'est pour ça qu'il règne sur le chaos. Deuxièmement, en tant que créateur de toutes choses, il a prédominance sur la création et il a le droit d'être obéi. Toujours dans cette relation particulière-là, c'est une relation qui va être libre. Un, je vais être libre de la vouloir ou non, cette relation-là. Deux, Dieu a le droit d'être obéi, puisque c'est le roi. C'est comme, c'est pas n'importe qui va être mon ami, c'est le roi de l'univers. Il veut être obéi. Puis les commandements n'étaient pas vraiment compliqués. Mange de tout. Fais-le. Alors, si on ne le faisait pas, c'était correct, mais celui-là ne lui touche pas. Il n'y avait pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais Dieu veut être obéi, et il a le droit d'être obéi puisqu'il est le maître du jeu, le créateur du ciel et de la terre. Mais encore une fois, l'homme, il ne lui est pas demandé de faire ce qu'il veut. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas dit « fais ce que tu veux ». Il a dit « fais ce que tu veux, mais ne mange pas de cet arbre-là ». Donc, ce n'est pas vrai que l'amour de Dieu, ça veut dire « pas de commandement ». Non, l'amour, si vous, puis pour aller plus loin dans ce message-là, lisez 1, 2 et 3 Jean. Si vous voulez approfondir ça, je suis certain que vous allez faire des coquilles qui vont tomber de vos yeux. Vous allez dire, wow! 1 Jean, l'amour consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, Dieu, il n'est pas là. Faites ce que vous voulez. Vivez comme vous voulez. Vous êtes dans le paradis. Là. Le paradis, c'est de faire ce qu'on veut. Non. Le paradis, c'est de faire ce qu'on veut sans désobéir à Dieu. Et Dieu a le droit. C'est une relation. Et la relation est basée sur l'obéissance. Et, mais pas seulement sur l'obéissance, mais sur le fait que Dieu est notre ami. Le roi qui veut obéissance est notre ami. Il est notre papa. Il nous aime. Il veut être aimé. Il veut partager son amour, sa joie. On a chanté un chant tantôt. Il veut nous partager sa joie. Hein? Il nous est donc demandé d'obéir au Créateur. Mais encore, l'homme pourrait ne pas vouloir lui obéir. Donc, c'est une relation particulière basée sur l'amitié de Dieu et aussi une relation particulière basée sur, écoute, oui, c'est Dieu, mais c'est le roi. Puis le roi, il aimerait que je lui obéisse. Et il a le droit d'être obéi puisqu'il est le créateur de tout. On va regarder à l'écran le troisième principe. On est limité à comprendre la relation qu'il désire avec les hommes par révélation. Et donc, on lit les premiers chapitres de la Genèse, puis qu'est-ce qu'on voit? On voit quatre choses. Dieu, il remplit les différents espaces qui sont proches de nous, en tout cas. On ne sait pas pour les cieux, des autres systèmes solaires, on ne sait pas. Fait qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On dit qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, pour ce qui nous concerne, ce qu'on connaît, ce que Dieu nous a révélé dans les Écritures, puis Dieu dit qu'il est un prophète, il ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. D'une certaine manière, en tout cas, ce qu'il faisait, puis il voulait qu'on sache, il nous le dit. Puis jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas devenu avec des gros yeux, des grosses têtes, puis des têtes en V. On ne sait pas. C'est Jean-Sébastien, mettez-les dehors. Non, je ne suis pas prétentieux, mais moi, je reste avec ce que Dieu nous a dit, puis il ne nous a pas dit qu'il avait fait ça. Non, je ne sais pas. Il remplit différents espaces de créatures. L'eau, des poissons, des monstres marins, le Léviathan. Il met toutes sortes de gros monstres marins incroyables. T'imagines au ciel, Dieu va dire, hey, cette race-là, vous ne l'avez pas vue dans votre temps? Je vais vous la montrer. Dans l'eau, dans les profondeurs, il y a des poissons qui ont des lampadaires sur la tête tellement qu'il n'y a pas de lumière qui arrive d'en haut. Tu dis, aïe, aïe, capotant. Tu regardes des fleurs, des choses de la création, tu te dis, crime, ça prend juste Dieu pour faire ça. Puis il les a faites pour lui-même. Il y a des places que l'homme ne peut même pas le voir. Il ne peut même pas l'avoir faite parce que nous, on trouverait ça beau. On n'a même pas les équipements pour aller là. On commence juste à les avoir, ces équipements-là. La mer, l'eau, j'aurais pu dire la terre ici. Donc l'eau, la terre, les animaux qui rampent sur la terre, sous la terre, il leur donne de l'espace, puis le ciel remplit les oiseaux, puis il leur donne tous des compagnons. Une communauté, chacun, et donc on voit ça, il crée l'homme image de Dieu. Troisièmement, il ne crée pas un monde complet où rien n'est à ajouter. Il ne crée pas tout d'une façon, tac, il crée, il attend un peu. Il demande l'aide à l'homme, travaille avec l'homme, tout pour créer d'autres choses. Puis il y a d'autres choses qui sont en train d'être créées. Dieu ne crée pas un monde, puis après ça, il dit, garde, on laisse tourner l'assiette, là, comme un... Oh, arrête de tourner un peu, on revient avec Jésus-Christ, donner une petite poussée encore pour que ça continue à tourner. Non, il crée un monde pas tout à fait complet, mais il y a encore des choses à ajouter. Dieu crée l'autre, c'est-à-dire la relation, et lui donne une sphère pour opérer. On va regarder le premier point. Il remplit... C'est là qu'il faut que je regarde. Il remplit les différents espaces, ça je l'ai dit tantôt. Deux, il crée l'homme à l'image de Dieu. Regardez le verset. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Ici, Dieu parle au pluriel. C'est la première fois qu'il parle au pluriel. Dieu dit que la lumière soit, elle fut. Dieu dit qu'il y a de l'espace qui sépare les eaux des eaux. Il y a eu de l'espace qui s'est mis entre l'eau et l'eau. Dieu dit qu'il y a un amas de terre qui sépare l'eau de l'eau. Fait que là, c'est devenu la terre. Mais c'est la première fois dans le livre de Genèse, dans les deux récits de la création, bien ça c'est dans le premier récit, il y a deux récits qui se joignent un en arrière de l'autre, qui se complètent. C'est une façon hébraïque de montrer divers aspects de comment Dieu a créé le monde. Mais ici, c'est la première fois que le pluriel est utilisé. Et j'aimerais attirer votre attention. C'est écrit « faisons ». Et pour les érudits, le mot « faisons » ici, ou première personne du pluriel, ça fait longtemps que j'ai fait de ma grammaire, hein? C'est une consultation divine. C'est Dieu qui se consulte en lui-même dans la Trinité. Et donc, le Dieu qui dialogue dit « je vais créer des gens comme moi ». Le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dit « nous faisons l'homme comme nous autres ». On va les faire qui vont avoir une relation entre eux puis une relation avec nous. Et donc, Dieu, dans la Trinité, veut créer des hommes et des femmes qui sont à sa ressemblance, des hommes et des femmes qui sont relationnels. Et ce n'est pas le résultat d'un monologue, mais le résultat d'un dialogue. Dieu interagit avec lui-même et il veut avoir des gens. Il veut avoir monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, vieillard. Il veut avoir une relation personnelle avec ceux qu'il a créés. Il veut des gens qui vont interagir avec lui et qui vont interagir entre eux. Et c'est pourquoi les deux plus grands commandements sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça résume toute la parole. Pourquoi? Bien, parce que c'est une des règles de la création. C'est Dieu qui dit « Garde, je fais l'homme à mon image. » Et lui donne la domination. Regardez, c'est intéressant, là. Ça, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, là, ça a fessé dans le dash. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui, en termes de ressemblance et de relation, mais afin qu'il domine. Ça veut dire que Dieu veut que l'homme domine sur la terre. Il lui donne la terre, puis il dit, tu es le boss. Pas des autres humains, mais du règne animal, puis de la manière, vous allez gérer et vous allez dominer. Comment que ça va se gouverner sur la terre, c'est à vous autres. Allez-y, les hommes. Et donc, il y a un partage d'autorité, et dès que Dieu décide de partager son autorité, il décide que les choses ne se passeront pas comme lui le veut. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit, regarde, tu gères ça, je te laisse ça, gère ça comme tu veux. En plus, il leur a donné la possibilité de ne pas l'aimer, puis il leur a donné la possibilité de le désobéir. C'est pas un père qui prend des risques? Vous trouvez pas? C'est un père qui prend des risques. Il partage son autorité. Regardez ces versets que Pasteur Pat, quand j'ai montré ça à Pasteur Pat, ce que j'avais découvert, ou ce que j'avais compris mieux, il m'a envoyé ces deux versets-là. Dans Psaume 115, verset 3 et verset 16, « Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. » On l'a vu tantôt. Regardez ça. « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Je disais, moi, comme je suis maître des anges, puis je gère comment ça se passe dans les cieux, vous autres, vous allez gérer comment ça va se passer sur la terre. Ce que vous allez décider, c'est ce qui va arriver. C'est votre responsabilité. Je vous laisse gérer. Gérer. C'est de même que ton patron fait, non? Quand il dit, garde toute une équipe, tu as des gars, tu t'occupes de ça, ou quand je te donne un voyage, tu sais, fais ça, puis gère-les. Si tu veux aller à Victo avant d'aller à Trois-Rivières, fais-les comme tu veux. Donc, le boss, quand il est en train de faire ça, il est en train de te dire, ça ne sera pas comme je veux tout à fait. Mais je te donne cette latitude-là. Et c'est un père qui prend des risques incroyables. Les cieux, comme Dieu, que ta volonté soit faite aux cieux, sur la terre comme elle l'est aux cieux. Autrement dit, ce qui se passe dans les cieux, on prie que ça se passe aussi sur la terre. Il y a de l'ordre, il y a de l'obéissance dans les cieux. Les anges obéissent à Dieu, etc. Il y a un ordre. Bien, que ça soit comme ça aussi sur la terre. Fait que dans le fond, il donne un terrain de jeu à l'homme puis il dit, regarde, domine. C'est risqué. Parce que cette domination-là, Dieu, l'homme la perd quand il remet à Satan le contrôle de la planète. C'est pour ça que quand Jésus a été tenté, le diable lui a dit, je te donne toutes les nations de la terre si tu te prosternes et m'obéis. Dans Luc 4, puis dans Matthieu 4, il dit, gars, fais juste te prosterner puis m'adorer, puis je vais te donner. Comment Satan pouvait donner les royaumes à Jésus? À moins qu'il ait ce pouvoir-là. Et oui, la domination de ce monde, Satan est appelé le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens 2. Et donc, il y avait vraiment une domination, une souveraineté. Donc, monsieur, madame, hommes et femmes, nous sommes rois et reines sur la terre, puis nous avons remis ce règne-là à Jésus-Christ, à Satan. Et Jésus-Christ est venu à la croix racheter ce règne. Hein? Mais il y a encore Satan qui domine comme prince de ce monde pour le moment. Donc, l'homme a une latitude pour choisir. Dieu dit, OK, à cette heure que tu es le maître de la place, il y a toutes sortes d'animaux que j'ai créés, j'ai fait passer devant toi. Donne-leur des noms. Puis là, nous autres, on a choisi des noms pour tous les animaux. Ça a démontré une souveraineté sur le règne animal. C'est nous qui les nommons. Comme Dieu a nommé Adam. Adam, maintenant, nomme chacun des animaux. Puis là, à force de voir les animaux passer, il les fait passer devant lui, femelle et homme, femelle masculin, femelle mâle, femelle mâle, femelle mâle. Et moi? Alors là, Adam réalise qu'il lui manque quelque chose, qu'il n'est pas complet, et là, Dieu va faire quoi? Il va créer avec l'aide d'Adam une femme. Une femme qui va être la puissance égale de lui. Ça veut dire, le mot là, que Dieu va utiliser, c'est une puissance qui est pareille, qui est égale à toi. Il va la créer, mais il va la créer pas tout de suite. Il va la créer quand l'homme va réaliser que lui, pour dominer sur le règne animal puis sur la planète, va avoir besoin de son épouse, d'une femme pour l'aider à gérer. Et quand on regarde comment un homme s'est fait, comment un homme s'est fait, on s'aperçoit que l'équipe sur la terre, pour qu'on puisse régner, ça prend les deux. Parce que c'est, nous sommes image de Dieu ensemble. Vous dites, ouais, mais je ne suis pas marié, je ne suis pas complet. Depuis le Nouveau Testament, Dieu ne dit pas que l'homme, ce n'est pas bon pour lui d'être seul. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Dans l'Ancien Testament, depuis que le Saint-Esprit est venu, on a tout pleinement en Jésus-Christ. On est, Paul va dire, on n'a pas besoin de se marier. Ce n'est pas nécessaire. OK, donc, Dieu dit, OK, tu vas être image de, tu sais, il dit, de faisons l'homme à notre image, mais il a mis une limite, tu sais, l'homme ne deviendra jamais Dieu. Et puis, c'est ça, voilà. Ça, puis, il peut faire participer sa créativité au royaume. OK. Les animaux sont nommés. L'homme aussi est en relation avec les animaux. Il y a une relation avec les animaux. Ben, pensez à votre chien, là, quand vous avez... Il vous ramène une souris dans le choc, il vous ramène une souris dans sa bouche, ou, tu sais, le chien qui est... Moi, le chien, c'est pas compliqué. À chaque fois que quelqu'un rentre à la maison, je l'envoie à son coussin, puis là, il se lâche les babines. Parce que lui, il dit, oh yes, il y a un visiteur, je vais avoir une récompense. J'ai une relation avec mon chien. Et puis, les animaux ont une relation aussi avec eux, entre eux-mêmes. Ils ont des communautés. Ils ont des groupes. Regardez les oies là, qui traversent dans les cieux, dans le ciel ces temps-ci. On les voit en formation de V. Ils travaillent ensemble. Ils ont une communauté. Quand il y en a une qui est malade, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a deux qui sortent puis qui vont s'atterrir pour prendre soin, attendre que la loi revienne correct, puis après, ils repartent avec. Tu sais. Il y a des relations dans le règne animal. Les champignons ont des relations entre eux. De plus en plus, on est en train de découvrir qu'il y a un système de communication assez sophistiqué dans les champignons. Il y a des champignons qui peuvent faire jusqu'à des centaines de kilomètres par racine. Tu vois juste des têtes de champignons, mais c'est un gros méga champignon. Puis quand il manque de quoi, d'un produit chimique ici, le champignon qui est à des centaines de kilomètres va chercher le produit, se le donne entre eux pour nourrir ce champignon. Si nous autres, on est là, puis on dit, ah, les animaux n'ont pas de communication. Les abeilles, juste les abeilles qui font leur petite danse, qui se tournent. S'ils font trois tours, ça veut dire que c'est par là. S'ils en font quatre, c'est par là. Tu sais. Je veux dire, c'est fou, là. Fait que Dieu a donné un espace à chacune des créatures qu'il a créées, puis les versets nous disent que les animaux attendent le secours de Dieu pour être nourris, pour que Dieu s'en occupe comme un père s'occupe de sa création. Hein? Alors, il a donné à chacun sa communauté ou son semblable. Là, il venait deux par deux. Il venait deux par deux. Ceux qui avaient besoin de se procréer, il venait deux par deux. Puis Dieu a donné un semblable à l'homme aussi. Et donc, Dieu, quand il a créé le monde et qu'il nous a donné la possibilité de dominer sur le monde, il nous a mis des limites quand même. Puis on va voir ces limites-là. Premièrement, si vous lisez le chapitre 3, on voit déjà Satan qui approche l'humain puis qui veut remettre en question la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que Dieu retient quelque chose de bon pour moi? C'est ça qui vient. Est-ce que Dieu retient quelque chose de bon? Il a donné la domination, il donne tout. Regarde la terre, tout est à toi, vas-y. Puis l'homme, il a, dans tout ce qu'il m'a donné, là, il doit manquer quelque chose. Puis pourquoi il arrive à cette idée-là? Puis le mal n'a pas toujours existé, de toujours avec le bien. Le mal est apparu du cœur de l'homme. La créature libre choisit à un moment donné d'établir une distance entre elle et son créateur, puis on appelle ça la convoitise. Et qu'est-ce qui arrive? Le mal trouve son apparition dans le cœur de la femme et de l'homme parce qu'il était fait d'une telle perfection que Dieu lui a dit, « Sais-tu quoi? Je te crée libre, donc c'est possible pour toi de désirer quelque chose que je ne veux pas que tu prennes. » À ce moment-là, Jacques va dire qu'un homme est, je vais vous lire, je ne pense pas qu'on l'a à l'écran, mais personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. » Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante, le péché. Le péché n'existait pas et Dieu n'a pas créé le péché. L'homme a créé le péché. Quand il a désiré quelque chose de bon, mais qui n'était pas bon pour lui. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quelque chose de bien. C'était du manger qui n'était pas bon. Dieu a créé quelque chose de bon, quelque chose d'autre de bon. Mais Dieu a mis un commandement, parce qu'il voulait que la relation soit basée sur un commandement. Et il a dit, regardez, si tu la manges, l'arbre est bon, mais c'est mal d'en manger. Et là, l'homme a dit, oh, Dieu me prive quelque chose de bon. Et même le personnifié par le serpent, il vient dans l'idée de l'homme, ouais, Dieu sait que c'est bon pour moi, puis il ne veut pas que je le prenne. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le mal trouve l'apparition dans le cœur de l'homme qui est doté d'une perfection de pouvoir choisir le contraire, fait qu'il choisit quelque chose de contraire, puis là, la convoitise de vouloir avoir quelque chose qui ne lui est pas permis, enfante le péché dans son propre cœur. Pareil comme Satan, la même affaire. Ce n'est pas un mystère en soi. La Bible a dit que c'est le mystère de l'iniquité, parce que comment? Pourquoi c'est un mystère? Quand tu as toutes les raisons du monde de ne pas toucher à ça. Il n'y avait aucune bonne raison de pécher. Il n'y avait aucune, il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucune. Dieu était bon. Dieu marchait avec eux à l'heure du soir pour les enseigner. Je veux dire, il n'y avait aucune. Et le péché est irrationnel. Il n'y a pas de bonne raison pour pécher. Encore moins là. Adam et Ève, il y avait une opportunité de pécher. Nous. Puis il y avait de multiples opportunités de faire le bien. Nous, on a quelques petites opportunités de faire le bien, mais énormément d'opportunités de pécher. Mais il n'y avait pas de bonne raison. Et donc, et j'attire votre attention, on va lire le passage. Le malin ne va pas utiliser le mot « Seigneur Dieu », alors que dans le chapitre 2, 3 et 4, quand ça parle de notre Dieu, c'est écrit « le Seigneur Dieu » ou « l'Éternel Dieu ». Vous irez vérifier ça. Et donc, Seigneur Dieu ou Éternel Dieu, vous allez voir dans votre Bible, Seigneur Dieu, c'est les deux noms. Il y en a qui vont dire Yahweh, mais il n'y a pas de voyelle. C'est un nom qu'on a enlevé voyelle parce qu'on ne voulait pas prononcer juste comme ça le nom de Dieu. Fait que les transcripteurs ont enlevé les voyelles. Et il y en a qui vont mettre Yahvé, d'autres Yehovah. Mais ce n'est pas le point aujourd'hui. L'idée, c'est que ça, c'est ici, c'est un des noms de Dieu. Et l'autre ici, Elohim, c'est un autre nom de Dieu. Mais quand le serpent va lui parler, il va dire, « Elohim, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Il ne va pas dire, « YHVH, Elohim. » Et ça, c'est frappant. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser Elohim, et il y a une distinction dans les deux noms. Selon la tradition juive, je vais vous le lire, puis je vais vous le traduire. Okay? Le Dieu Saint, ça ici, c'est un... C'est des écrits rabbiniques, donc des écrits juifs. Le Dieu Saint, soit-il béni, a dit à ceux, « Vous voulez savoir mon nom? Je suis appelé en accord avec mes actions. Quand je juge les créatures, je suis Elohim. Et quand j'ai miséricorde avec mon monde, mon nom est Yahweh. » Donc, quand je juge, je suis Elohim. Puis quand je suis miséricordieux, ça veut dire qu'il retarde le jugement, repousse le jugement. il n'agit pas tout de suite avec sévérité, il attend, il est patient. Quand j'ai miséricorde avec mon monde, je suis Yahweh ou YHWH. Ça, c'est intéressant. Donc, ceux qui lisaient l'hébreu, qui comprenaient l'hébreu, pas nous autres en 2017, Québécois francophones. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Satan utilise le nom qui est compris pour être, je vais vous le dire aussi, dans les écrits juifs, dans le document que j'ai trouvé qui était d'origine hébreu, ça parle de puissance, de force et de justice. Le créateur du monde, le tout-puissant, le souverain, celui qui peut faire ce qu'il veut, il fait juste dire, puis la lumière arrive, il fait juste dire, puis les eaux apparaissent, se séparent. Celui qui fait juste, il est tout-puissant, le tout-puissant. Alors, Satan vient, puis il ne dit pas, hey, le tout-puissant n'existe pas. Hey, je veux dire, regarde, en 2017, ça marcherait, mais pas avec Adam. Il a marché avec lui. Il a parlé avec lui. C'est son ami. Mais il ne lui présente pas l'ami. Il lui présente le tout-puissant, le juge, le créateur, celui qui est fort et grand en force. Puis il dit, est-ce que le Seigneur a réellement dit? Et là, qu'est-ce que vient? Il vient le doute sur ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Moi, j'ai un film qu'on regarde, c'est une série, on a fini de l'écouter, il y avait juste 10 émissions, mais ça s'appelle « The Good Place », »,« La bonne place ». Puis le scénario est comme suit, c'est des architectes. Le gars, c'est un architecte, puis il a créé une version du ciel. Puis dans le fond, il peut faire son expérimentation, il a passé le test. Puis là, il peut faire, quand les gens meurent, ils s'en vont là, s'ils ont fait assez de bien, ils peuvent aller là. Tu sais, fait que c'est basé sur faire le bien, puis tu vas aller au ciel, là. C'est pas l'évangile, mais c'est pas grave, l'image est bonne. Mais la fille, elle tombe là par erreur, tu sais, elle n'a vraiment pas de point, elle n'a même pas de point dans le négatif. Tu sais. Elle devrait aller dans la mauvaise place parce qu'elle a fait des mauvaises choses. Puis là, à chaque fois qu'elle dit « what the f » en anglais, je mets des étoiles, à chaque fois qu'elle dit un mot vulgaire, ça sort « what the fork », fourchette. C'est comme ça, tu sais, elle dirait un mot vulgaire, puis à chaque fois qu'elle dit un mot vulgaire, ça se traduit par « fork ». Pourquoi? Parce qu'elle est dans une bonne place, puis dans cette bonne place-là, ce n'est pas permis de dire des gros mots. Fait qu'à chaque fois qu'elle dit des gros mots, ça sort de sa bouche comme une fourchette. Tu sais. Eh bien, Dieu aurait pu créer ce genre de monde-là. Hein? Mais non, il dit, savez-vous quoi, vous voulez faire un meeting? Puis vous voulez dire que, dans le fond, ce que Dieu a fait n'est pas bon, puis que Dieu cache des choses à sa création? Je ne l'empêcherai pas. Faites-le. Fait qu'on est dans un monde où on peut dire que c'est des singes qui nous ont créés. Nous, on descend du singe, puis le singe descend de l'arbre. Bon, on peut dire des niaiseries comme ça, OK? Puis on n'est pas là, on ne deviendra pas un tas de cendres. Tu sais, Dieu pourrait juste faire, tiens, toi, tu nuis, tu égares les hommes loin de la vérité. Non! Dieu est le vainqueur du chaos, mais pas de cette manière-là. Mais pour l'instant, il prend des risques. Puis il dit même, malheur à ceux qui en ont égaré d'autres. Parce que leur châtiment va être pire, parce qu'ils vont en avoir égaré d'autres. Mais, on peut avoir un meeting, si vous voulez, on peut parler ensemble, raisonner ensemble, puis dire que Dieu n'existe pas, puis convaincre d'autres hommes et d'autres femmes que Dieu n'existe pas, puis il n'y a pas grand-chose qui va se passer. C'est ce qui s'est passé. Genèse 3, c'est le résumé à peu près de ce qui s'est passé. L'homme raisonne, puis Dieu permet que l'homme puisse raisonner et juger Dieu sur ses motifs, sur pourquoi il a fait ça comme ça. Et donc, c'est possible de le questionner. Et il est possible aussi, vu que c'est possible de le questionner, c'est possible aussi de rejeter ce Dieu-là ou de l'accepter. Puis la femme, lui, le serpent, il a dit, « Le Seigneur a-t-il réellement dit, donc le Dieu créateur puissant, juge, pas ton ami, pas ton papa, pas celui qui t'aime, pas celui qui a une communion avec toi, le Dieu puissant, sévère, juste, il n'est pas juste sévère, il est tout puissant, il est merveilleux. Mais est-ce que Satan veut mettre, il veut déconnecter la communion d'avec Ève pour qu'elle réalise qu'elle ne pense pas en communion avec le Père, mais qu'elle pense autonome sans sa communion avec le Père. Et qu'est-ce que la femme va répondre? Elohim a dit. Puis en plus, elle va abroger ce qu'il a dit. Parce que Dieu avait dit, tu mourras. Puis la femme a dit, de peur que tu ne meurs. Elle a non seulement questionné Dieu, mais elle a abrogé ce qu'il a dit, elle a changé ce qu'il a dit, puis elle a continué, mais elle n'a pas parlé de son papa. Elle a dit des choses sur Dieu, mais elle n'a pas dit des choses de son Dieu. Satan avait déjà commencé à la faire faiblir dans sa tête. Ça, c'est important parce qu'après ça, on va essayer de connecter ça à notre expérience à nous. Et la promesse que Satan lui fait, c'est « Ben non! Le jour que tu vas en manger, tes yeux vont s'ouvrir, puis là, tu vas connaître, tu vas être comme un Dieu. Hein? Je n'aurai pas besoin de relation avec le Dieu. Je vais pouvoir être moi-même le Dieu. » Émancipation, liberté, pas besoin d'avoir de Dieu à qui je dois rendre des comptes, je vais être moi-même son égal. On a dit tantôt, Dieu n'a ni égal ni rival en termes d'égalité. Mais là, Satan vient dire, Satan, qu'est-ce qu'il avait dit? Je serai comme le Très-Haut, j'établirai mon trône sur le trône de Dieu, etc. Qu'est-ce que Satan avait dans son cœur? Je veux être l'égal de Dieu. Et qu'est-ce qu'il propose à la femme? Qu'est-ce qu'il propose à l'homme? Qu'est-ce qu'il propose en 2017 aux gens? Tu es le capitaine de ton navire. Tu n'as pas besoin d'obéir à un créateur. Vis ta vie, vis ta sexualité, vis comme que tu veux. Sois ton propre Dieu. Il lui promet une nouvelle connaissance puis une émancipation, c'est-à-dire une libération. Et c'est vrai, l'homme et la femme en mangent et dès qu'ils en mangent, il y a cette émancipation qui vient. Délivré de ce Dieu. Ou séparé de ce Dieu. Si Dieu a donné la domination à l'homme, puis que le choix de l'homme, c'est ce qui arriverait. C'est-tu Dieu qui les a séparés ou c'est l'homme qui a séparé Dieu de lui? Exact! Par sa domination sur sa propre vie, il a dit, « Moi, je ne veux pas d'un Dieu, je veux être moi-même un Dieu. » Dieu dit, « Regarde, la règle du jeu, c'est ça. » Dieu est là, il est tout puissant. Mais il s'est lié par les choix qu'il a faits. Puis il a dit, « Autant que je règne dans les cieux, vous, vous allez régner sur la terre, ça va se passer comme que vous voulez. » C'est quelque chose, c'est quelque chose. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a créé un monde que c'est possible de questionner Dieu, c'est possible de s'opposer et de créer une place qu'on résiste à lui. Puis là, l'homme et la femme ont reçu une nouvelle connaissance. L'homme a réalisé qu'il était nu, il a commencé à avoir honte avant, c'était correct d'être nu, tout d'un coup, c'est devenu mal. Il y a eu une séparation, une relation qui a été brisée. Dieu continue de chercher l'homme et dit, « Adam, où es-tu? » Dieu n'a pas changé, mais l'homme a changé. « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Premier sentiment de peur, l'homme qui se cache de son Dieu, l'homme qui a peur de rentrer en relation avec son Créateur, cette relation-là est brisée. L'homme a changé parce qu'il accuse son Dieu. Dieu, tu es supposé être souverain? Tu m'as donné une femme. Puis cette femme-là, tu avais dit que c'était mon aide, qui était supposée de m'aider. Mais c'est elle qui m'a fait planter. Il est le premier, de le fruit de la chute, c'est de rendre Dieu souverain sur nos choix. Je répète. Le premier fruit de la chute, c'est de rendre Dieu souverain sur nos choix qui nous ont mis dans la crotte. L'insensé se met dans une fosse, il tombe dedans puis accuse Dieu de l'avoir mis dedans. « Ah, si ça va mal dans le monde, c'est à cause de qui? » C'est à cause de Dieu. 95% des choses qui vont mal dans le monde, à part les désastres surnaturels, et même ça, c'est causé par l'homme. Le débalancement même, ça vient de notre surconsommation et de le fait qu'on brise la terre. Ainsi que dans l'Apocalypse, Dieu dit « Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. » Comment ça va se passer? Par nos propres choix qui ont amené cette révolution dans la façon qu'on utilise la planète puis qu'on est en train de la détruire. Mais je reviens. Dieu ne change pas. Dieu nous aime, puis il dit, je m'en vais continuer. T'es où? Bien, c'est la femme. Puis l'homme dit, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Le fruit de la chute, c'est d'accuser Dieu pour notre souveraineté. C'est d'accuser Dieu qu'il n'est pas assez souverain, puis il aurait dû prendre la souveraineté de la femme puis dominer tout ça. Non. D'ailleurs, le calvinisme, c'est ça qu'il enseigne. Il enseigne quoi? Que Dieu a tout souverainement orchestré, même nos choix, et la chute. C'est pourquoi, à l'Église Grâce et Vérité, nous ne sommes pas calvinistes. Parce qu'on croit que si on s'est mis dans ce pétrin-là, puis on a perdu la domination dans le monde. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de recevoir une patate chaude. C'est le diable qui est là. Fait que chacun, il trouve et l'homme n'est pas capable de prendre la responsabilité de son choix. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, arrête. Tu dominais sur la terre. C'était toi qui avait la domination. C'était à toi de pouvoir dire non. La femme accuse Dieu aussi de ses choix à cause du malin qui était là. Et l'homme, il ne veut pas être responsable de ce qui tourne mal dans le monde. Il voudrait déléguer sa souveraineté à un autre. Il doit aussi apprendre à agir comme un être libre avec tout ce que ça consiste, même les conséquences d'avoir fait le mal. Et aujourd'hui, ça nous rejoint. Parce que vous pouvez être dans un piètre état, dans une situation que vous n'avez peut-être pas voulu, mais que vous vous êtes mis dedans, puis vous dites, « Ben, Dieu contrôle tout. » Vous redonnez la domination à Dieu comme si c'était Dieu qui vous avait conduit dans ce pétrin-là. Ça, c'est l'insensé d'un proverbe qui fait ça. Puis ce qu'on veut, c'est devenir de plus en plus sage, puis dire, « Non, non. » Il y avait toutes les le péché est irrationnel. Il y avait toutes les raisons d'obéir à Dieu et de ne pas obéir au diable. Toujours dans ce point-là ici, je m'en viens en vitesse un peu plus V, grand V. Je vais arriver à ma conclusion. Ah, Dieu ne désirait pas le péché. Le péché est étranger à lui parce qu'il ne pourrait pas désirer qu'une personne veuille ne pas l'aimer. Mais il veut que l'homme puisse choisir de ne pas l'aimer. C'est possible, mais ce n'est pas planifié par Dieu dans le sens que c'est désiré. Par contre, Dieu n'est pas là, « Ah non, c'était sûr qu'il ne ferait pas ça. » Puis là, il dit, « Bon, ça, on fait quoi? Ah, je vais envoyer mon fils à la croix. » Non, il avait décidé d'envoyer son fils avant la création du monde. Il avait décidé que si l'homme pécherait, Christ serait livré pour nos péchés, mourrait à notre place, comme par le premier Adam, les hommes ont été déclarés pécheurs, par le deuxième Adam, tous seraient déclarés justes. Il avait décidé ça déjà d'avance, qu'on serait enfermé dans l'injustice d'un homme pour être enfermé dans la justice d'un autre. L'Évangile était prêt, le monde possible était prêt, mais Dieu n'a pas dit « je décide que l'homme va pécher ». Il a dit, « Je décide que si l'homme pêche, je vais être vainqueur du chaos. Je vais être vainqueur du désastre qui a été créé. » Et Dieu va venir vaincre le chaos dans nos vies. Et ça, c'est merveilleux. Je skip ce point-là, ça aurait fait un point en entier, mais la mort physique n'est pas arrivée comme Dieu l'avait dit. Soit Dieu a menti, soit il y a une peine de mort qui a été mise sur l'homme. Soit il y a une séparation. Il y en a qui disent théologiquement que le mot « séparé », je crois ça, que le mot « séparé mort » veut dire « séparé ». Le mot original veut dire « séparé ». En fait, on est séparé de celui qui est la vie et on meurt. En fait, l'homme a commencé à mourir là. Puis au déluge de Noé, ses jours ont été arrêtés à 120 ans. Avant, il vivait plus vieux. Puis Dieu a comme baissé ça parce que les jours de l'homme étaient vraiment méchants. Oh là là. Ça va être vraiment excellent, le prochain message. Ça va vraiment être excellent. Parce que, je vais vous donner un petit cue, Dieu a appris c'est quoi perdre un fils et une fille. De toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient une relation ininterrompue. En Éden, Dieu a perdu l'homme. Comme un parent qui regarde son enfant partir dans le monde, il dit, « T'as toutes les raisons. » Savez-vous pourquoi je suis capable de pleurer? Parce que Dieu m'a créé à son image. Le prochain message va être spécial parce que Dieu dit dans Genèse 6:5, la première fois quand il crée le monde, il dit, il a vu l'homme puis il a dit, c'était très bien. Au chapitre 6, j'ai vu l'homme et c'était très mauvais. Parce que les pensées de l'homme vont continuellement vers le mal. Je regrette de les avoir faits. Ce n'est pas une image. Dieu a regretté de nous avoir faits. Mais comment c'est possible? C'est possible seulement si Dieu a décidé de rentrer dans une expérimentation dans le temps, puis qu'il s'est rabaissé lui-même à une relation avec l'homme. Je ne pense pas que c'est une image quand Dieu dit « Je regrette d'avoir fait les hommes ». Il va envoyer un déluge, mais il dit « Mais regardez ». Et il a vu un homme qui s'appelait Noé, qui serait prêt à obéir. Un homme qui serait prêt à l'aimer et à l'obéir. Puis, je vais recommencer avec lui. Dieu souffle. Il a appris à être un parent. Il a appris à être un parent parce que, en tout cas, de humains. Puis vous dites, j'aime pas ça, ça me fait sentir bizarre de me dire que Dieu a appris quelque chose. Mais pourquoi nous, on est des êtres qui apprennent? C'est parce que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu, le monde n'existait pas avant. Oui, il savait tout ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait devenir, il connaissait tout. Mais il ne connaissait pas dans l'expérience, tant qu'il n'avait pas vécu, puis il ne s'était pas humilié à ça, de vivre l'expérience avec les hommes. Ça y enlève pas sa puissance. Moi, je pense que ça y en donne. Un Dieu qui est capable de s'humilier comme Christ qui est devenu un homme. Et donc, on va parler du Fils prodigue, on va parler de différentes choses, ça va vraiment être sur la grâce de Dieu. Puis c'est ce Père qui t'aime tellement passionnément. Puis on va regarder pourquoi est-ce que nous, en Amérique du Nord, présentement, en tout cas nous autres, du côté d'ici l'Occident, on a de la difficulté avec ce Père-là. Puis ça va être très application de ce qu'on va avoir vu aujourd'hui. Fait que si vous pouvez réécouter le message, ça va être l'application de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vous qui allez en gagner. Vous pouvez aussi lire 1, 2, 3 Jean, puis Genèse, chapitre 1 à chapitre 4. Ça va vraiment approfondir votre connaissance sur ce qu'on va voir. Oh Seigneur, je te remercie, papa. J'aime mieux, papa, que tu aies dit que tu regrettais de nous avoir fait. Que si je pêche, puis ça ne te fait pas lever un sourcil, puis tu me dis que je vais aller en enfer parce que j'ai péché, puis que tu m'envoies ton fils, tu le sacrifies à quoi à ma place? Je veux pas. Mon cœur ne répond pas à ce Dieu-là, mais quand je lis dans l'Écriture que tu es là, tu es impliqué émotionnellement, puis tu as regretté de nous avoir fait, ça me montre que tu peux vivre des deuils toi aussi, que tu peux vivre des pertes toi aussi. Et puis que ça ne te rend pas indifférent dans la manière que je vis ma vie. Quand je pêche, ça ne te rend pas indifférent. Et ça, moi, ça me touche. D'ailleurs, c'est ça qui me fait que j'ai le goût d'aller te prier, que j'ai le goût de te connaître, papa. Je prie, Seigneur, que tu montes à cette église, Seigneur, ton amour de Père. Au nom de Jésus. Amen. On ne va pas faire de chant parce que j'ai débordé. Il est déjà moins 20. Fait que si vous voulez rester à dîner avec nous autres, soyez bénis. Puis s'il y a quelque chose que Dieu il vous a touché, gardez ça. Continuez avec votre papa. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et beaucoup plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.